Voici Robert Pilote.
Un bon mardi tout le monde, début de semaine pour plusieurs. Lendemain de la fête nationale des Québécois, vous vous en remettez, j'en suis convaincu. C'est plus tranquille quand la Saint-Jean tombe un lundi, c'est plus tranquille. T'sais, on fête plus le dimanche, la veille de la Saint-Jean. Hier, c'était un petit peu plus tranquille. Alors, Serge, as-tu dansé avec tes bottes de Kodiak,
ta chemise
à carreaux?
Oui, mais j'ai dansé, mais c'était vraiment en solitaire. Là.
La gigue?
je voulais pas être vu.
La danse à Saint-Dylon, peut-être?
Oui, ça va, c'était tranquille.
Beaucoup, ça brasse dans l'actualité. Mais je m'attendais à avoir un petit mardi tranquille. La plupart, maintenant, sont en vacances. Les professeurs et tout ça sont en vacances. Et puis, il y a des collègues de travail qui sont en vacances. Puis, vous l'êtes de plus en plus. Je pense avoir un petit mardi tranquille dans l'actualité.
Il ne faut jamais faire ce remarque.
Et bien non, il y a quand même des nouvelles importantes annoncées aujourd'hui. Je vais y revenir avec Robert Aubin, député de Trois-Rivières à la Chambre des communes, qui, d'ailleurs, j'ai pris plaisir à lire son dernier texte écrit sur son téléphone intelligent, sur Facebook, je pense. C'était la mort dans l'âme qu'il quittait Ottawa. On le redira ensemble, Robert, tantôt.
Ça fait plaisir.
Hein? C'était comme si c'était la dernière fois.
Ben, c'est comme une fin d'année scolaire. Hein?
Oui,
mais où je ne sais pas si je serai encore enseignant l'année d'après.
je vais la chanson pour une dernière fois avant le mort. Tu connais cette chanson-là?
Oui, certainement.
Tu dois avoir le vinyle. C'est certain. Que...
non, mais elle moi, j'ai la cassette.
Tout en cassette.
Ben oui, on a des vinyles. Voyons, c'est Beau Dommage ou Harmonium?
Non, c'est Jerry Boulay.
Jerry. Oui, c'est parce que si je parle de ça, c'est que c'est l'un des premiers spectacles qui va lancer. C'est le Festivois. Je tente d'entrer en communication avec le fils Justin. C'est bien ça.
Ouais,
c'est
exact.
Ça. Justin Boulet et non pas Boulet.
Hey, ça vient mêlant, hein, des fois.
C'est super mêlant, des grands dossiers. L'actualité, comme je le disais, très effervescente, Cathy.
Oui, parce qu'Ottawa poursuit l'exploration d'un projet à très grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto avec l'ajout d'une enveloppe de 71 millions de dollars. Claude Boucher, c'est une annonce majeure qui a été faite à Trois-Rivières.
Plusieurs dignitaires s'étaient déplacés à Trois-Rivières pour l'occasion. Le ministre des Transports, Marc Garneau, était accompagné de son collègue François-Philippe Champagne, de la présidente et chef de la direction de Via Rail, Cynthia Garneau, et du président et chef de la direction de la Banque de l'Infrastructure du Canada, Pierre Lavallée. Une équipe de projet sous la direction de Via Rail et de la Banque d'infrastructure se penchera sur divers éléments financiers et logistiques du projet, dont l'acquisition de terres et les évaluations environnementales. Les intervenants socio-économiques de la région se réjouissent de cette annonce. Le gouvernement fédéral se donne de 18 à 24 mois pour réaliser l'étude. Il faut savoir que le corridor Québec-Toronto est le plus achalandé pour Via Rail, avec 80 % du total de ses passagers.
Oui, il grimaçait pendant le reportage. Alors, c'est Robert Aubin qui est en studio. On va en reparler dans quelques instants avec le député à Trois-Rivières qui le réclamait, d'ailleurs, ce projet-là, la réalisation du projet. Là, on est dans les études, si je comprends bien le reportage de Claude.
L'enquête préliminaire de René Kegle, qui est accusé du meurtre d'Ophélie Martin-Cyr, devait débuter aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières. Toutefois, les procédures sont suspendues jusqu'à maintenant, puisque Kegle a été battu avec des cannes de conserve hier soir à la prison. Il est en attente d'ailleurs d'une évaluation du médecin de l'établissement et selon son état, il pourrait autoriser son avocate à demander le début de l'enquête sans qu'il soit sur place aujourd'hui ou encore il pourrait lui demander de l'attendre. L'enquête, oui?
Non, mais c'est surprenant, c'est parce qu'une boîte de conserve, moi, ça ne me rentre pas dans la tête qu'un détenu puisse avoir accès à des boîtes de conserve. Je comprends pas. Il ne nous reste pas en prison. C'est quoi, là? Est-ce que c'est possible qu'il y ait du trafic, hein, ou de boîtes de conserve par drone dans les institutions carcérales du Canada? Je comprends pas, là. J'ai hâte d'avoir le fin fond de l'histoire, parce que si le gars, il est tabassé, se retrouve à l'hôpital, il y a d'autres co-détenus qui seront éventuellement accusés de voies de fait, puis de voies de fait graves, causant des blessures. Fait que donc, ce sera public, puis il y aura, si c'est le cas, procès, puis là, on comprendra un peu comment c'est possible dans une institution fédérale, M. Aubin, je le dis bien, fédérale, de voir des boîtes de conserve comme ça devenir des armes qui peuvent tuer du monde.
Vous imaginez bien que j'ai pas la réponse au moment où on se parle, mais la question se pose.
Est bonne et pertinente.
Le gouvernement du Québec annonce une réforme en profondeur du controversé fonds vert. Dorénavant, il s'appellera Fonds d'électrification et de changement climatique et sera entièrement sous la responsabilité du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette. Monsieur Charrette explique son projet.
Actuellement, le Fonds vert sert nos objectifs de lutte contre les changements climatiques, bien sûr, le nom l'indique, mais également ceux associés à la gestion des matières résiduelles et ceux de la gouvernance de l'eau. Nous voulons désormais circonscrire la vocation du Fonds à nos objectifs de lutte contre les changements climatiques.
Les sommes du Fonds vert proviennent des revenus générés par la vente de droits d'émission de gaz à effet de serre dans la bourse du carbone, des redevances pour l'élimination des matières résiduelles et la redevance pour l'utilisation de l'eau.
Puis l'essence, je pense qu'il n'y a pas une couple de cents qui est pris à même l'essence que l'on paie à la pompe, quelques cents qui sont comme ça pigés dans la poche des consommateurs d'essence. Vous me corrigerez, M. Robert, si je me trompe?
Je suis désolé, je ne vous suivais pas.
Le Fonds vert, c'est financé avec, entre autres, en partie, par le litre d'essence qu'on achète pour mettre dans la voiture.
Mais on parle du Fonds vert du Québec.
Oui.
Alors, ce n'est pas de juridiction fédérale.
Je sais. C'est parce que là, vous arborez, vous êtes vert, plus vert que vert. Donc, j'ai dit, il doit être au courant de ça. Vous avez connu les carrés rouges. Vous vous en souvenez, les carrés rouges? Après ça, il y a eu les jaunes.
Les mauves.
Après ça, il y a eu les blancs. As-tu les blancs? Les noirs? Les ronds.
N'oubliez pas le carré gris.
Il y avait le
gris. Qui représentait les victimes de la pyrotite à Trois-Rivières.
En plus.
Qui avait symbolisé le bloc de béton par un carré gris.
Oui.
La question n'est pas résolue totalement encore. Donc on pourrait aussi porter le carré gris.
Et il y a le rond vert.
C'est
ce que vous avez là.
Absolument.
Vous portez ça maintenant.
Qui signalise la planète s'invite dans la campagne.
Uh-huh.
Alors, c'est mis sur pied par un regroupement de jeunes dont la question environnementale préoccupe en tout premier lieu et qui demande aux politiciens de poser des gestes concrets et de faire des offres audacieuses lors de la prochaine campagne.
Tellement concrets qu'ils vont enfouir le plastique. Vous avez vu passer ça, là? Il n'est plus capable de trouver des bouchées pour le plastique qui est récupéré. On va l'enterrer. Pas plus grave que ça.
La solution est en amont. C'est de mettre en place une législature qui fasse en sorte que les plastiques à usage unique soient interdits. Alors là, la question va se poser autrement. On ne parlera plus d'enfouissement ou de recyclage puisqu'on les aura éliminés. Et ça se voit déjà. De toute génération, j'étais à la fête nationale en fin de semaine.
Oui.
Et il y avait très, très, très peu de bouteilles de plastique sur le site.
Ah, oui.
Ou bien parce que les gens arrivent avec leur propre gourde d'eau.
Oui.
Ou bien il y avait le service de ravitaillement en eau. On pouvait s'acheter un verre consignable et aller puiser l'eau.
Ça, c'est bien. C'est une très, très bonne idée. Puis à l'amphithéâtre Cogeco, fini les verres de plastique. Dorénavant, je ne sais pas si vous êtes allé cette année, vous avez eu l'occasion. Vous louez votre verre. Dans le fond, vous déposez 2$, ils vous donnent un beau grand verre que vous pouvez amener à la maison, ça vous fait un beau souvenir, ça coûte 2$. Et si, quand vous retournez votre verre, ils vous redonnent votre 2$.
Exact, c'est exactement le concept de la fête nationale en fin de semaine dernière.
Incroyable, et c'est au-delà de 50 000 verres de plastique qui ne seront pas jetés à la poubelle pendant la saison à l'amphithéâtre Cogeco. Il faut applaudir à de telles initiatives. Une petite dernière, peut-être?
Oui, bien certainement.
Oui, oui.
L'enquête publique sur la mort de Linda Hamel au Centre de traitement des dépendances, la Maison Carignan de Trois-Rivières, commence aujourd'hui. Le bureau du coroner tentera de faire la lumière sur la mort de la femme de 21 ans qui est survenue en décembre 2016. L'enquête publique durera 4 jours au Palais de justice de Trois-Rivières. La coroner André Konstrom présidera les audiences. Elle aura comme mandat d'émettre des recommandations si le besoin se fait sentir. Elle n'a pas le mandat de se prononcer sur la responsabilité criminelle ou civile des parties impliquées.
Bon, là, il va me faire la morale. Le député, que c'est pas du tout.
Je fais pas la morale, je fais juste signaler qu'il y a comme une incongruence.
Non. Regarde, j'ai un verre de plastique devant moi. Okay. Ici, à la station, c'est le seul verre qu'il y avait. Je n'ai pas le mien, malheureusement.
Malheureusement qu'il faut transformer.
Écoutez, je vais finir de m'expliquer. La semaine dernière, c'est les jeunes qui nous guident vers le mieux-être de la planète et l'environnement. J'ai moi-même fait remarquer à Cathy, « Wesh, regarde le verre que j'ai là. » Qu'est-ce que tu m'as répondu la semaine dernière?
Il n'y
a pas de trouble si tu le nettoies et tu le gardes, le réutilises à quelques reprises, tu le gardes un mois ou deux ou trois, il n'y a pas de trouble.
Et je confirme que c'est le même verre.
C'est le même verre que je lave et que je traîne avec moi. Mais, monsieur le député, vous promettez de plus faire ça. OK?
Vous n'avez pas de promettre. On a tous nos incohérences en matière d'environnement. L'important, c'est que le principe nous guide.
Oui, moi, j'essaie de poser des gestes le plus possible. Planter un arbre une fois de temps en temps, Ça fait toujours du bien. Quand est-ce que j'ai planté un arbre la dernière fois?
Eh boy,
oui, bon, ça fait longtemps. Serge, tu as déjà planté...
Non, moi, ça fait un petit bout de temps.
Un arbre.
Très récemment, parce que j'en ai un qui n'a pas passé l'hiver.
Bon, fait qu'on, vous avez replanté un arbre ou deux ou trois. Très facile, très simple. Quelquefois, je pourrais peut-être en offrir un. Un arbre, j'ai un terrain, puis à un moment donné, on est obligé de les couper, puis ils s'étouffent les uns les autres. Tu sais, la forêt, il faut l'entretenir un peu aussi, là. Est-ce que tu voudrais un érable?
Bien certes. Ben, je ne sais pas, j'ai de la... Y es-tu gros, ton érable?
Ben non, il ne faut pas qu'il soit trop gros, parce que ce n'est pas des restants.
Mais c'est ça, mais là...
Il faut qu'il soit tout petit.
Je ne sais pas, mettre ça sur mon terrain, moi, là.
Hein? Non, mais tout petit, mais il va devenir gros, par exemple.
Oui, c'est ça.
Bon, ben je t'offre un érable.
Bon, ben
ça
merci.
Ça te va, ça? C'est bien. Sur ces mots de sage, météo, n'as-tu de la météo à faire? Peux-tu la faire quand même?
Y aller.
Parce que Serge commence ses vacances aujourd'hui. Alors, pour commencer tes vacances, ce sera de la pluie pour demain, puis après-demain également.
Merci pour tes bons mots.
Profites-en bien, puisque vendredi, le 28 juin, on aura une journée ensoleillée avec 29 degrés qui est prévue. On a 17 degrés au centre-ville à Trois-Rivières.
Une vue d'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 14 heures, vous écoutez Midi Plus. Midi Plus. Voici Robert Pilote.
Alors, d'un Robert à l'autre, c'est Robert Aubin qui est en studio. Il était au point de presse aujourd'hui où on a annoncé un bureau de projet. Bureau de projet, c'est pas donné. Bureau de projet, là, c'est 72 millions, presque 71-72 millions de dollars. C'est pour le train à grande fréquence. C'est pas juste pour Trois-Rivières, mais on l'a annoncé, entre autres, à Trois-Rivières. M. Champagne veut être réélu. Alors, il y a eu assez d'influence pour attirer toute sa gang à Trois-Rivières. Ça a été annoncé à la gare, magnifique gare, tout près, ici, dans le centre-ville de Trois-Rivières. Robert Aubin était présent à la conférence de presse. Ils ont été gentils de vous inviter.
Absolument. D'abord. Mais il faut aussi savoir que je suis le plus fidèle interlocuteur du ministre Garneau en Chambre depuis le début de son mandat. Il a même qualifié ma question sur le TGF de question hebdomadaire, tellement j'y reviens souvent, avec peu de réponses. On a un élément de plus ce matin. Il m'avait dit « Lorsque j'aurai quelque chose à annoncer, je te le ferai savoir. » On m'a cordialement invité à la conférence de presse de ce matin pour que je puisse être témoin de cette annonce.
Est-ce que c'est important comme annonce? Est-ce qu'ils nous ont annoncé un TGF au coût de 3, 4, 5, 6 milliards? On ne sait jamais quand. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Là. Est-ce qu'on aura un train dans 4 ou 5 ans à Trois-Rivières qui va avoir quitté Québec le matin, qui va nous prendre sur l'heure du midi puis qui va nous amener à Toronto ou à Montréal?
La réponse, c'est je ne le sais pas. Et c'est ce qui me laisse un peu mi-figue, mi-raisin dans cette conférence de presse-là, puisque comme l'ensemble des citoyens, ça fait plus de 6 ans que je martèle cette question-là à la Chambre des communes et tout le monde attendait une annonce d'une mise en chantier. Or, ce qu'on nous annonce, c'est un bureau de projet. C'est une étape importante. On ne va pas nier ça.
Il paraît que c'est étape ou passage obligé.
Passage obligé, certes, mais qui ne garantit pas la finalité. Alors, on n'est pas capable de nous dire ce matin, parce qu'on annonce un bureau de projet, qu'il y aura effectivement réalisation du projet à la fin de ces nouvelles études financées en partie par la Banque d'infrastructure et par le gouvernement du Canada.
Comme il y a de l'argent privé, ce que semblait vouloir dire le ministre tantôt, il serait bien cave de dépenser 70 millions juste pour savoir si ça se fait ou ça ne se fait pas.
Oui, mais au moment où on se parle, c'est la Banque d'infrastructure qui met de l'avant ces sommes-là. La Banque d'infrastructure, ce n'est pas de l'argent privé. Là. C'est de l'argent de nos taxes et impôts qui ont été mis dans un fonds à la création de la Banque d'infrastructure. Et quant à l'ensemble de l'œuvre, si on devait financer le projet de train grande fréquence par la Banque d'infrastructure, là, il faut bien voir que c'est des privés qui viendront investir dans un projet qui pourrait très bien être financé aussi par des deniers publics où le coût serait moindre. Parce que si vous êtes un privé qui investissez dans un projet, que ce soit le REM, que ce soit celui de Toronto ou éventuellement le TGF, vous souhaitez avoir des rendements. On a déjà entendu le président de la Caisse de dépôt au Québec dire « Nous, si on investit, on s'attend à des rendements entre 7 et 9 %.» Alors que si le gouvernement du Canada emprunte dans son budget d'infrastructure pour lequel il n'hésite pas à faire des déficits annuellement, bien, on parle peut-être de 1, 1,5 % de taux d'intérêt sur un emprunt gouvernemental. Moi, je pense que ce projet-là, devrait se réaliser et que toutes les études qu'on met de l'avant maintenant auraient pu être entamées bien avant et que ça devrait être financé par des deniers publics de façon à assurer à l'utilisateur-payeur, au bout de la ligne, le meilleur prix possible sur le prix du billet.
Je posais la question tantôt. Si le Parti libéral n'est pas élu, donc c'est les néo-démocrates ou les conservateurs ou le Bloc québécois qui devient le gouvernement qui gère le plus beau pays du monde, est-ce qu'on pourrait annuler ce qui a été annoncé aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait mettre à la poubelle le train à grande fréquence parce qu'on pense que c'est pas rentable puis qu'il n'y a pas de volonté populaire d'aller là?
Bien, effectivement, là, ça va dépendre de la plateforme de chacun des partis. Je ne répondrai pas pour les autres partis, mais en ce qui me concerne, c'est clair que dans notre programme, dans notre plateforme, le projet de TGF est déjà inscrit et il est inscrit avec du financement public. Ce qui veut dire que demain matin, c'est un gouvernement néo-démocrate qui est à Ottawa. Le projet TGF va voir le jour et verra le jour sur du financement public.
Là, on est en, vous me corrigerez, 2019, OK. Est-ce que j'aurai le temps de prendre ma retraite avant de pouvoir acheter un billet et partir de Trois-Rivières pour aller faire une virée à Montréal et revenir dans la même soirée?
Difficile de répondre parce que je connais votre passion pour la radio, donc oui. Je ne peux pas déterminer l'âge de votre retraite.
Oui.
Mais très certainement, ce qu'on nous a annoncé ce matin, c'est un bureau de projet qui va travailler pendant 18 à 24 mois, parions davantage sur 24. Et après, s'il y avait une recommandation positive du ministre, parce qu'il pourrait toujours décider que ou bien le projet n'a pas lieu, ou bien le projet a lieu mais s'arrête plus à Trois-Rivières, je crois pas, et comptez sur moi pour maintenir la pression. Mais après ces 2 ans de bureau d'études, il faudra aussi compter minimalement 3 à 4 ans pour que le projet se mette en branle. Certains tronçons pourraient arriver plus rapidement.
Okay. Ouais.
Moi, ce que je trouve un peu curieux dans tout ça, c'est que ça semble nettement plus facile pour le ministre Morneau de dégager 4,5 milliards pour acheter un pipeline que pour le ministre Garneau de dégager le même 4,5 milliards pour mettre en place une structure de transport collectif qui réunirait et qui aurait des bénéfices pour l'ensemble des collectivités qui sont logées dans le corridor le plus densément peuplé au Canada. Ça, ça ne me rentre pas beaucoup dans la tête.
Électoraliste, diront certains?
Bien, il y a de toute évidence une fenêtre que les libéraux ne pouvaient pas rater, d'autant plus qu'on se rappellera que dans le dernier budget, il n'y avait pas une ligne sur un investissement de 4,5 milliards que représente le TGF. C'est quand même curieux. On m'a dit qu'on pouvait faire le TGF par bien d'autres façons. J'en suis. Mais quand dans un budget, un élément de 4,5 milliards n'apparaît pas, on peut se questionner.
Juste avant de vous laisser aller, là les vacances sont arrivées, mais...
Les vacances de la Chambre, entendons-nous bien. Il n'y a pas de vacances à Trois-Rivières.
Pas de vacances.
Et même les vacances de la Chambre, ce n'est pas certain. Ce ne serait pas surprenant que la Chambre soit rappelée pendant l'été.
Pourquoi?
Entre autres pour signer le traité d'accord de libre-échange entre le Mexique, États-Unis et Canada, qui n'a toujours pas été ratifié par le Canada.
OK. Puis là, ben je parlais tout à l'heure d'un message que j'ai lu passer lors de votre dernière journée à la Chambre des communes. Vous sentez nostalgique un peu dans le message en disant, bon, écoutez, là, je m'en vais en campagne électorale, c'est possible que je sois élu, mais peut-être que je ne serai pas réélu. Et j'ai quasiment le cœur brisé de quitter mes fonctions aujourd'hui et de rapatrier mes pénates vers Trois-Rivières.
Bien, effectivement, il y avait quelque chose de déchirant parce que la population est souveraine lorsque vient le temps de faire le choix de ses représentants. Alors, quand on quitte la Chambre des communes à chaque mois de juin, en sachant qu'en septembre, on y reviendra, c'est un peu comme quand je terminais mon année scolaire. J'étais heureux de retourner chez nous, prendre des vacances, parce qu'à cette époque, c'était véritablement des vacances, en sachant qu'en septembre, j'allais être de retour dans cette profession que j'aimais. Pour octobre prochain, je ne le sais pas. Alors, je vais offrir à la population de Trois-Rivières, comme je le fais déjà, mes services. Si elle croit bon retenir ma candidature, j'en serai le plus heureux et le plus honoré encore une fois. Mais la population a ses raisons et elle est souveraine. Alors, je me plierai au résultat du vote populaire.
On va se revoir, c'est certain. On se reparle de façon, on a vos coordonnées.
Et puis, je suis encore député jusqu'au déclenchement de l'élection, ce qui n'est pas avant fin août, début septembre.
C'est ça. Puis j'aurai l'occasion d'organiser des petites affaires là, pour faire jaser des enjeux.
Vous savez bien que je serai présent.
De la prochaine campagne. Vous avez entendu Robert Aubin, le député néo-démocrate de Trois-Rivières. Une courte pause au retour. Mathieu Godreau qui a accepté qu'on le décale un peu. Histoire de Desjardins. On va revenir sur vos données. Une bonne partie des données personnelles des citoyens du Québec qui se trouvent, au vent.
On sait pas.
Au vent. Vous vérifiez dans votre compte?
Bien, j'attends toujours la lettre
OK.
La poste, parce que c'est le moyen officiel, mais sur mon compte,
oui.
Dans la boîte courriel, pour l'instant, je n'ai rien reçu.
Bon, voyez-vous, peut-être que les députés ont été épargnés.
J'oserais pas dire cela. Peut-être les plus anciens sociétaires des caisses populaires.
Et qu'est-ce qu'on peut bien faire avec des données comme celle-là? Numéro de téléphone, il y a l'adresse, courriel, puis il y a...
En fait, c'est surtout le numéro d'assurance sociale.
C'est ça qui accroche le plus. Hein?
Le plus.
Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ces données-là? Vous le découvrirez après la pause.